J'ai souvent entendu l'expression « il faut de tout pour faire un monde ». Alors, sans trop réfléchir, et au vu des différences qui existent entre les personnes, j'ai toujours pensé que c'est plutôt vrai. Mais en réalité, c'est entièrement faux, car il y a des tas d'êtres infâmes dont on aurait fort bien pu se passer, et encore aujourd'hui, qui veut habiter à côté d'un prédateur ou d'un voleur. On n'a pas besoin de ces gens-là. Au travers des pages des textes sacrés surgissent ici et là des transpersonnages du genre malsain. Dans le chapitre 22 du livre des Nombres apparaît Balaam, un homme sinistre et des plus énigmatiques. Balak, roi de Moab, a vu arriver une multitude d'Israélites qui, en deux temps trois mouvements, ont éliminé deux rois puissants qui étaient ses voisins. Alors il prend part. Or il connaît un devin qui, au moyen d'une magie noire, possède le pouvoir de maudire. Il casse sa tirelire et offre à Balaam une somme faramineuse s'il arrive à diminuer suffisamment la puissance des Israélites pour que les Moabites puissent les attaquer et les vaincre, avant que le contraire ne se produise. Je continue à lire le chapitre 22 du livre des Nombres. Le lendemain, Balaam alla déclarer au chef envoyé par Balak, « Retournez dans votre pays, car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. » Les chefs de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak pour lui dire, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak revint à la charge et envoya une nouvelle délégation composée de princes plus nombreux et plus importants que la première fois et dire à Balaam, « De grâce, ne refuse pas de me venir en aide. Je te comblerai d'honneur et je te ferai tout ce que tu me demanderas. Mais viens donc, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit, « Même si Balak me donnait son palais rempli d'or et d'argent, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, même pour une petite chose. Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. » Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit, « Si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux, mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. » Le lendemain, Balaam alla céder son ânesse et partit avec les princes de Moab. Bien que pernicieux et cupide, dans un premier temps, Balaam refuse la somme alléchante de Balak, celle qu'il lui proposa parce que l'Éternel le lui ordonne, et qu'il a de ce Dieu une certaine crainte. Le roi de Moab ne se laisse pas décourager, car il en va de sa survie et de celle de son peuple. Il envoie donc une autre délégation de dignitaires plus élevés que précédemment. Or, chaque aller-retour, c'est 40 jours de marche. Cette insistance chatouille la vanité de Balaam. En plus que sa cupidité, il tire la langue de plus en plus. En répondant que, pour tout l'or du monde, il ne transgressera pas l'ordre de l'Éternel, il répond correctement à la deuxième ambassade. Mais il ajoute, « Pourtant, restez ici cette nuit, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. » Il cherche un moyen de dire oui à l'offre de Balak, et donc de contourner Dieu pour la première réponse, celle qu'il avait été pourtant claire et précise. « Ne pars pas. » L'appât du gain, la convoitise de ce vieux filou de Balaam va l'emporter sur ce qu'il sait être la volonté de Dieu. La deuxième réponse de l'Éternel, positive, celle-là. La deuxième réponse de l'Éternel, positive, celle-là, à la deuxième requête du devin, n'implique pas un changement d'avis de la part de Dieu. Mais devant l'obstination du devin, il décide de le prendre à son propre jeu en vue de le juger pour sa désobéissance. En gros, l'Éternel lui dit, « Mon interdiction d'aller avec ces gens ne t'a pas suffi, soit, n'en tiens pas compte. Puis, malgré tout, tu veux aller et parler. Va donc et parle, mais prends bien garde à ce que tu vas dire et sache que tu t'engages sur une pente glissante. L'Éternel consent, mais sans l'approuver, au désir de Balaam. Il a refusé de rendre gloire à Dieu en lui obéissant. Il devra le faire d'une autre manière et au final subir le jugement. Ce prophète véreux accepterait sans doute de vendre sa propre mère pour quelques espèces sonnantes et trébuchantes, surtout si elles sont en or. Je continue le texte. Dieu se mit en colère parce qu'il, Balaam, avait entrepris ce déplacement, et l'ange de l'Éternel se posta au travers du chemin pour lui barrer le passage. Or, Balaam montait son ânesse et était accompagné de deux serviteurs. Alors, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle se détourna du chemin et prit à travers champ. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'Éternel se plaça dans un chemin creux, passant dans les vignes entre deux murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à l'abattre. L'ange de l'Éternel les dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Un humoristique a fait remarquer qu'à cette époque éloignée de la nôtre, c'était un miracle lorsqu'un âne parlait. Alors aujourd'hui, c'est le contraire. Le prodige a lieu lorsqu'un âne se tait. L'épée dégainée que tient l'ange signifie « Si tu forces le passage, je frappe ». Le voyant de réputation internationale et aveugle aux réalités spirituelles qu'aperçoit sa bête de somme, il est évident que l'ange est apparu à l'âne, mais était invisible à Balaam et à ses serviteurs. Je continue. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse, qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par trois fois ?» Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ. » L'ânesse reprit, « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi ?» Et il répondit non. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé par trois fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car ce voyage que tu as entrepris n'augure rien de bon. L'ânesse m'a vu et s'est détournée à trois reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai peur, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin. Et maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Va avec ces hommes, mais tu répéteras seulement les paroles que je te dicterai. » Balaam poursuivit donc la route avec les princes envoyés par Balak. Comme toujours, l'ange de l'Éternel s'identifie à Dieu lui-même. Il est quasi certain que ce personnage divin soit une apparition du Fils de Dieu avant qu'il ne devienne Jésus-Christ. On ne sait pas trop quelle forme a revêtu la communication de l'âne, mais Balaam a bien compris. Puis il propose à Dieu de s'abstenir de ce voyage dont il comprend le danger, mais il est trop tard pour faire marche arrière. quand le vin est tiré, il faut le boire. La partie est maintenant engagée, et elle doit se jouer jusqu'au bout. Balaam n'a pas voulu glorifier Dieu en refusant catégoriquement d'entreprendre ce voyage. Il devra donc lui rendre gloire par sa parole. L'apôtre Pierre compare ce faux jeton de Balaam au corps tortueux, aux enseignements de mensonges qui sévissaient de son temps. Je lis le passage. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis, mais il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. Je continue. Lorsque Balak apprit que Balaam arrivait, il alla à sa rencontre à Ir Moab, situé à la limite de son territoire sur la frontière formée par l'Arnon. Il lui demanda « N'avais-je pas déjà envoyé une première délégation vers toi pour te faire venir? Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite chez moi? As-tu pensé que je ne serais pas capable de te traiter avec honneur ?» Balak va à la rencontre du prophète à l'extrême nord de son pays. Il veut faire honneur à celui qui a fait un si long voyage pour répondre à sa demande et de qui il attend un si grand service. Cependant, son orgueil a été blessé par le premier refus de Balaam. Je continue en allégeant le texte jusqu'à la fin du chapitre 22. Balaam répondit à Balak, « Tu le vois, je suis venu vers toi. Maintenant, crois-tu que je pourrais dire quoi que ce soit de moi-même? Non, je ne pourrais prononcer que les paroles que Dieu lui-même mettra dans ma bouche. » Le lendemain matin, Balak vint chercher Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal, d'où l'on avait vu sur les dernières lignes du camp d'Israël. Balaam a compris la leçon que lui a enseignée son âne et affirme ne vouloir que dire les paroles de Dieu dans la suite de cette affaire. Dans ce texte, il est fait référence à Baal. À partir du troisième millénaire avant Jésus-Christ, cette idole fut le faux dieu le plus répandu en Syrie et dans le pays de Canaan. Il représente l'orage et la nature en général. Elle est aussi le dieu de la fécondité. Son culte inclut la prostitution sacrée. Il est intéressant de noter qu'un certain nombre de sectes ont dépoussiéré cette idée pour la remettre au goût du jour, surtout depuis les années 60. Sur les hauts lieux de Baal, on peut apercevoir l'extrémité sud du camp d'Israël dressée dans la plaine du Jourdain et qui s'étend sur de nombreux kilomètres vers le nord. À partir de maintenant, Balaam va faire tout ce qui est en son pouvoir pour maudire Israël et ainsi toucher son salaire. Ce personnage sinistre n'est pas un simple magicien païen. Il connaît l'Éternel depuis longtemps, car c'est lui qui consulte immédiatement dès l'arrivée des envoyés de Balak. D'autre part, sur la réponse négative du Dieu d'Israël, Balaam a tout d'abord refusé de partir. Enfin, il dit qu'il ne parlera que d'après l'inspiration divine et préfère renoncer aux richesses promises plutôt que de contrevenir à la volonté de Dieu. Balaam parle de Dieu non seulement en le désignant sous le nom d'Elohim, la divinité en général, mais en employant le nom plus rare et plus caractéristique de Yahvé, traduit par l'Éternel, et qui était en usage dans la famille d'Abraham. Aux yeux de Balaam, ce nom décrit le Dieu élevé au-dessus de tous les autres, que l'on vénère autour de lui. Cependant, il ne peut pas être considéré comme un prophète de l'Éternel. D'ailleurs, il ne porte pas le titre hébreu de prophète, nadi, ou de voyant, chosé, mais celui de devin ou magicien, Cosem. De plus, il emploie des moyens occultes pour communiquer avec Dieu. Il consent à s'associer avec le païen Balak qui veut éliminer Israël, et il travaille pour un salaire, étant prêt à tout sacrifier pour satisfaire son vice. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, car l'amour de l'argent est aussi vieux que le monde. Le roi de Moab semble connaître la relation particulière qui lie Israël à l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il désire obtenir de Balaam, un soi-disant serviteur de ce Dieu, qu'il maudisse ce peuple. On sait qu'avant de combattre une nation, les Romains cherchaient à la faire maudire au nom de la divinité qu'elles adoraient. Balak a une vision toute païenne de l'Éternel qu'il se représente comme une idole pouvant être influencée par certains moyens magiques connus de spécialistes comme Balaam qui voudraient bien se servir de Dieu pour se remplir les poches. Nous arrivons au chapitre 23 qui continue l'histoire saugrenue de Balaam, un prophète vénal et véreux. Je commence à lire. Alors, Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce qu'à Balaam lui avait demandé et, ensemble, ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Reste ici, près de ton holocauste pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre. Alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. » Et il s'en alla sur une crête. Le texte ne nous dit pas comment Balaam s'y prend pour obtenir une communication de l'au-delà. Un peu plus loin, cependant, on apprend qu'il se sert d'augure. Sans doute observe-t-il les signes qui peuvent s'offrir accidentellement à lui, comme le cri ou le vol d'un oiseau, ou quelque autre phénomène naturel. Il utilise aussi la magie dans le double but d'invoquer la divinité et de se plonger lui-même dans un état d'extase qui lui permet d'entrer en communication avec le monde des esprits fermés au sens naturel. Les chamans ou devins qui pratiquent la sorcellerie utilisent des breuvages secrets qui, mêlés à des mouvements giratoires, étourdissants, produisent une suspension momentanée de la vie naturelle et des sens qui efface le temps et les distances. Ils entrent alors dans un état de clairvoyance qui leur permet de répondre avec exactitude à des questions auxquelles ils ne pourraient absolument pas répondre dans leur état normal. Balaam utilise probablement un procédé analogue, et il semble que Dieu a condescendu à jouer le jeu et à répondre aux devins parce que l'heure est grave pour son peuple. Le texte sous-entend que Balaam a conclu diriger 7 autels sur lesquels il offre ses sacrifices. Donc, effectivement, Dieu lui parle et le renvoie à son employeur. Je continue un peu plus loin. Dieu se manifesta à Balaam qui lui dit, « J'ai fait dresser 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. » Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. » Balaam retourna vers Balak et le trouva debout avec tous les chefs de Moab près de son holocauste. Alors il déclama cet oracle d'Aram, Mésopotamie, « Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudit Jacob pour moi, viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Voici, je le contemple du sommet des rochers, et du haut des collines je le regarde, je le vois, c'est un peuple qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Il n'a jamais compté les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui a démontré le quart du peuple d'Israël, qu'il ne soit accordé la même mort que celle de ses justes, et que mon avenir soit identique au leur. Balaam va donner en tout 7 oracles, à la manière des sentences rythmées que les devins prononçaient. Les prophéties des vrais prophètes d'Israël ne sont jamais désignées par ce terme. Sur cette première montagne, Balaam aperçoit que 3 des 12 tribus qui entourent le tabernacle. Et pourtant, elles représentent un peuple innombrable. Ce premier oracle n'est pas une bénédiction, mais une déclaration qui ne peut maudire ce peuple parce que, d'une part, il est différent des autres, étant investi d'une mission spéciale, et d'autre part, il est juste, sans doute, grâce à la loi et son système de sacrifice qui couvre les transgressions. Je continue le texte. Balak dit à Balaam, « Qu'as-tu fait ? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà, que tu les combles de bénédictions. » Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche ?» Suite à ce premier fiasco, Balak emmène son devin sur une autre montagne, d'où il aperçoit une partie plus importante du peuple d'Israël, et puis ses rebelotes. À nouveau, cet autel sur lesquels sont immolés taureaux et béliers. Les païens croyaient qu'en répétant des supplications et des actes cultuels, ils pouvaient modifier le sentiment des dieux auxquels ils prêtaient les faiblesses humaines. L'Éternel se manifeste à Balaam, qui retourne vers Balak. Je continue le texte un peu plus loin. Alors, Balaam prononça son oracle. « Allons, Balak, écoute, fils de Tsippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole, et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré ? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. » Il a béni. « Je n'y changerai rien. » Balaam, le devin, dit des vérités importantes sur l'Éternel. Il aurait pu écrire un livre. Dieu, dit-il, n'est pas capricieux, mais constant et immuable, fidèle à lui-même, à sa parole et aux hommes avec qui il a fait confiance. Je continue. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob. Et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle. Et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob, au moment opportun, oui, il est dit à Israël, ce que Dieu accomplit. Voici, comme un lion, un peuple se lève, il bondit comme un lion. Il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Encore une fois, Balaam est dans l'impossibilité de maudire Israël. Sous l'action de l'Esprit de Dieu, il est même obligé de le bénir. Au milieu des autres peuples, Dieu rend Israël fort comme un lion parmi les autres animaux du désert. En s'attaquant à lui, Balak ne fera donc qu'attirer sur lui le sort des Cananéens. Balaam fait aussi une remarque qui concerne l'excellence morale de ce peuple, l'esprit de sainteté qui règne dans ses rangs et le préserve de l'injustice et des misères qui en résultent. Balaam va se souvenir de sa propre sentence et ainsi trouver le talon d'Achille d'Israël qui va lui permettre d'empêcher le sol frique qui lui a été promis. Mais pour l'instant, Balak n'est pas content du tout. Il emmène alors Balaam sur une autre sommet, plus au nord, d'où on aperçoit mieux la plaine du Jourdain et donc une plus grande partie du peuple d'Israël. Balak espère donc qu'en voyant cette immense multitude qui remplit toute la vallée étendue à ses pieds, Balaam comprendra enfin le danger qui menace les peuples environnants et sera disposé à parler conformément à ses désirs. Comme la plupart des gens aujourd'hui, Balak croit qu'au moyen de certains rites, on peut manipuler Dieu, mais c'est de l'effronterie.